Cette semaine encore, bon, j'ai trouvé quelques images. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux là-dedans que j'ai déjà utilisées, mais je me dis, bon, c'est quand même... Donc, pour aller dans notre thème, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez ici. Est-ce que vous voyez des voiliers en ligne ou est-ce que c'est un pont que vous voyez là? Est-ce que vous voyez les deux? Hein? Est-ce que tout le monde voit le pont et les voiliers en ligne? C'est un peu comme une illusion d'optique qu'ils ont créée avec ça. La prochaine. Hein? Moïse, qui il n'a pas fait de ça une fois, hein? Il taquine son ami, donc il ne peut plus pêcher. Hein? Et l'autre aussi, je la trouvais quand même intéressante. Pour ceux qui ont déjà vu le film du Titanic, là, quand ils sont en avant du bateau, dans l'Arche de Noé, les deux éléphants qui décident de faire ça à l'avant. Hey, arrêtez vos niaiseries, vous autres. Là. Donc, cette semaine, pour introduire notre thème, je voulais utiliser une illustration que Moody a mentionnée dans son commentaire sur le texte qu'on va regarder ce matin de Romains 12, 2. Et il disait, « Les chrétiens doivent vivre dans le monde, mais pas en être remplis. Un bateau vit dans l'eau, mais si l'eau pénètre dans le bateau, il va couler. Ainsi, les chrétiens peuvent vivre dans le monde, mais si le monde entre en eux, ils sombrent. » Puis j'ai trouvé ça intéressant. Pour ça, j'ai pris cette illustration-là du petit garçon qui a l'air vraiment mal pris sur son voilier qui est presque submergé. Je me disais, c'est peut-être Gaston, quand il était jeune, qui a appris à naviguer. Puis là, il s'est dit, je vais avoir un plus gros bateau à l'avenir pour plus que ça se produise. Mais ça nous amène à notre texte. Je voudrais qu'on tourne avec moi dans Romains, chapitre 12. Et le verset 2, mais juste le début du verset 2, on va lire le Romains 12, 1 et 2a ensemble. Donc, Romains, chapitre 12, verset 1, on va commencer. Le texte qu'on a vu il y a deux semaines, ou la semaine passée? Deux semaines, hein? OK. Donc, ça dit, Romains 12, 1, celui qu'on a déjà vu, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et notre verset de ce matin, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » On arrête là. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Juste sept mots. Sept mots qu'on va regarder ce matin. Et sincèrement, en préparant cette étude, on a passé d'une semaine pour passer à travers de tout ce qui pourrait être étudié sur ce sujet-là. Donc, on va continuer la semaine prochaine. Mais toute une demande que Paul ici fait, finalement, il nous dit d'offrir nos corps en sacrifice, et la première façon, c'est en ne se conformant pas au siècle présent. Donc, je vous propose tout de suite, on va... C'est un sujet qui est très pertinent pour nous et on va prendre le temps de demander au Seigneur de nous éclairer, de travailler dans nos cœurs. Bien oui, Seigneur, certainement, ta parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, séparant même l'os et la moelle, que ta parole dit. Et Seigneur, certainement, le texte qu'on va regarder ce matin, je te prie que ça puisse faire toute une différence dans chacune de nos vies, qu'on puisse prendre cette exhortation bien au sérieux, Seigneur. Et qu'on puisse faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais surtout, par la puissance de ton esprit, toute une différence dans chacune de nos vies. Seigneur, utilise ma bouche dans ta grâce, parle à travers de ma bouche, prépare nos cœurs à savoir ce que tu as à dire, et c'est en Jésus que je veux te prier. Amen. Donc, ce texte-là, je crois, est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui, en 2020, mais le texte nous parle du siècle, le présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le siècle présent? Où est rendu le siècle présent dans lequel nous sommes aujourd'hui ou duquel nous parlait Paul? Eh bien, Paul venait, dans le début de son épître, de nous exposer en détail de quoi avait l'air le siècle présent à son époque. Et juste pour faire un petit retour rapide, ça c'était dans Romains chapitre 1, les versets 21 à 32. Et la liste était tellement grande qu'on ne pouvait pas la mettre juste sur une page. Donc, les gens du siècle présent étaient égarés dans leurs pensées, le cœur sans intelligence, plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ont été livrés à l'impureté, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils adorent et servent la créature au lieu du Créateur, hein, des passions infâmes, et la liste de Romains 1 continue. Ils sont remplis d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. On pourrait dire au Québec, ah oui, il y a un. Hein? On peut en rajouter en masse. Hein? Hey, c'est pas Jojo, hein? C'était pas Jojo, là. La société dans le siècle présent dans lequel Paul vivait. Mais ma question c'est, est-ce que vous reconnaissez là notre siècle présent? On ne parle pas que tous les individus sont comme ça. On ne parle pas d'individus là, on parle d'une société. Toutes ces choses-là se retrouvent dans notre société et se retrouvent même en abondance, je dirais, dans notre société. Si on ne voit pas que notre société est encore là aujourd'hui, au même point, peut-être même pire que c'était dans le temps de Paul, je pense qu'on a besoin de remettre les lunettes de l'Évangile que Paul vient de nous présenter dans les 11 premiers chapitres de son épître. Parce que si on remet les lunettes de l'Évangile, on va être forcé d'avouer que oui, c'est là qu'on est. C'est dans ce siècle présent-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui en 2020. Si on ne voit pas que notre société a besoin, vit dans cette situation-là, on est en train de dire que notre société n'a pas besoin du Sauveur que Paul nous a présenté. Pourtant, notre société a bien besoin du Sauveur, plus que jamais, je pense, aujourd'hui. Et notre siècle présent, les gens de notre monde sont au même endroit où nous, on était avant de se convertir, à la même position qu'on avait lorsqu'on a réalisé qu'on s'en allait en enfer, et qu'on s'est repenti, et qu'on s'est converti, et qu'on a suivi le Seigneur. Notre société est à ce point-là. Si on ne voit pas ça, alors on risque fort de tomber dans le piège de se conformer au siècle présent, comme Paul nous demande ici. Donc, quand on voit, on est devant cette réalité-là, on regarde un petit peu notre société, là, puis là, on a deux choix. Hein? On peut nous y assimiler, nous y conformer. Si on ne voit pas qu'il y a un problème là, hein, on va juste accepter que peut-être en 2020, bon, c'est la seule façon de vivre, donc qu'on soit chrétien ou pas, c'est la façon qu'on peut vivre. On ne se mettra pas sur nos gardes. Puis, finalement, ce qu'on va faire, on va se conformer à ce que notre société est en train de nous véhiculer. Ainsi, quand on va nous regarder, même comme enfant de Dieu, un enfant de Dieu par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas de différence. C'est du pareil au même. On ne voit pas de distinction entre les deux. J'aimerais ça juste, puis je pense que c'est important, c'est pertinent de le faire ce matin, revenir à notre illustration. Donc, ça, c'est notre thème de l'année. On va revenir souvent à cette illustration-là et à ce thème-là. J'aimerais ça vous parler de cette section-là ici. On parlait de la gouvernance de Dieu, que Dieu a mis une partie de son autorité aux anciens, aux diacres dans l'Église, aux parents, au gouvernement, au système de justice. Mais j'aimerais ça revenir sur cette section-là ici. Parce qu'en tant que parents, on a tout un rôle à jouer, chacun dans nos familles, au niveau de ne pas se conformer au siècle présent. Malheureusement, aujourd'hui, et je pense que c'est notre notre génération, c'est très triste à dire, mais qui est là, on ne veut pas que nos enfants, nos pauvres petits-enfants, soient catalogués, qu'ils soient mis à part de leurs amis à l'école. On ne voudrait pas qu'ils soient vus comme différents des autres. Donc, pour les protéger, puis pour éviter que nos enfants ne se convertissent pas, parce qu'ils ne veulent pas être comme, ils veulent pas être mis à part, ils veulent pas. Donc, il dit, non, moi, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas continuer à être à part, je veux être comme les autres. Donc, on a surréagi et on a fait le contraire. On les a tellement mis dans la ouate, on les a tellement montré que non, on n'est pas si différent que ça des autres. On les a finalement conformés au siècle présent. Et dans nos propres vies, en tant que parents, souvent, on a atténué ces choses-là pour pas que ça paraisse trop pire. Et le triste constat, et ça fait quelques fois que j'entends des jeunes, des ados surtout, me dire, non, moi, je ne veux pas venir au Seigneur, parce que quand je regarde les chrétiens, puis je regarde les non-chrétiens, je ne vois pas la différence. C'est sérieux, frères et sœurs. Notre jeunesse est là aujourd'hui. Elle regarde l'Église, elle regarde en dehors de l'Église, et leur constat, c'est il n'y a pas de différence. Pourquoi je me convertirai au Seigneur? Je ne vois pas la différence. Et j'ai entendu ça dans les dernières années à quelques reprises. Et même au sein de notre Église, j'ai entendu ça. C'est triste, frères et sœurs, mais je pense qu'on a bien réussi en ne voulant pas les mettre à part. Maintenant, pour eux, chrétiens, non-chrétiens, c'est bien assimilé. Donc, en ne voulant pas être légaliste, finalement, en ne voulant pas imposer des choses à nos enfants, le balancier est allé trop loin de l'autre côté. On est plutôt allé vers le libéralisme, où tout est permis, fait comme les autres, et il n'y a pas de problème là. Aurais-tu ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Donc, en tant que parent, je pense qu'on a tous un rôle à jouer envers chacun de nos enfants, envers les choix, puis ce qu'on va voir dans la suite, qu'on puisse appliquer ça. Et une des raisons, oui, on veut, comme le texte nous dit, ne pas nous conformer, parce que Dieu nous dit ne pas nous conformer, mais par souci pour la nouvelle génération, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les autres jeunes autour de nous. Jouons ce rôle que Dieu nous demande d'avoir. Et souvent, ce qu'on fait parle tellement fort que les enfants n'entendront pas ce qu'on dit. Donc oui, on peut leur dire, mais ce qu'on va vivre, comment on va vivre cette réalité-là, va avoir tout un impact sur les jeunes autour de nous. C'est exactement là qu'était la femme de Lot. Vous connaissez un peu l'histoire. L'histoire se passe dans Genèse 19, versets 16 et 26. Donc, on voit Lot, sa femme. Il dit, comme il tardait, les hommes, donc les deux anges, les saisir par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ils ont oublié de les traîner, là. Il ne voulait pas sortir de là, là. Et un petit peu plus loin, on voit que même si l'ange avait dit de ne pas se retourner, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot s'était attachée à cette ville. À la façon dont il vivait, ça s'était rendu sa façon de vivre. Elle avait accepté d'adopter la façon de vivre de cette ville et en quittant cette ville, elle était triste. Elle ne voulait pas partir de cette ville corrompue. Dieu était obligé de la détruire tellement elle était corrompue, là. C'était pas drôle. On voit juste l'histoire avec les anges qui s'est passé. Ben voyons donc, c'est horrible. Mais sa femme de Lot s'était attachée. Elle s'était assimilée à cette ville. On voit que Lot a été épargné. Lot semblait quand même avoir été préservé, mais il ne s'est pas soucié de l'influence qu'il avait envers son épouse, envers ses enfants aussi, parce qu'on voit qu'il a parlé à ses gendres, puis ils ne l'ont pas pris au sérieux. À leurs yeux, il semblait plaisanter. Mais la conséquence, la femme de Lot est morte avec les gens de cette ville-là, parce qu'elle s'y était assimilée. Donc, c'est comme l'histoire du début, l'histoire de Moody. Si le petit bateau s'assimile à son milieu, eh bien, il va sombrer. Mais ainsi en est-il aussi pour les chrétiens. Bon, OK, le bateau de l'Évangile, de la bonne nouvelle, il est bien équipé. Hein? Comme ce petit bateau-là, il semble avoir des zones de flottaison à l'intérieur, là, il y a de l'air. Donc, ce qu'il va faire, il va se remplir d'eau, puis là, il va juste voguer à la surface, mais tu ne le verras pas. Tu ne vois plus le bateau, il ne cale pas au fond, là, mais tu ne le vois plus. Il s'est assimilé à son milieu, puis tu ne le vois plus, l'Évangile, le bateau de l'Évangile, un petit peu ça. Mais les chrétiens aussi, on a à faire attention, de ne pas faire comme la femme de Lot, et de venir assimiler à notre milieu, finalement. Puis si on fait ça, bien les conséquences vont être très grandes, très importantes. C'est ce que Paul nous avait expliqué, d'ailleurs, dans Romains 6. Juste pour revenir un petit peu, on veut regarder dans notre contexte, on est dans l'épître de Romains, et regardez ce que ça disait, Romains 6, 2 à 4. On va regarder 2 à 7. Il dit, loin de là, hein, nous qui sommes morts, vivons-nous dans le péché pour que la grâce abonde, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous qui sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de mort du péché fût détruit et que nous ne soyons pas plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous sommes morts au péché. Comment est-ce qu'on pourrait encore vivre comme ce monde dans le péché? Tout ce qu'on a lu tout à l'heure, ce sont des péchés. C'était des péchés quand Paul a écrit son épître et c'est encore des péchés aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait vivre comme ça en tant qu'enfant de Dieu? Ce serait insensé. Christ a payé un prix énorme de sa propre vie, sa mort sur la croix. Il a payé ma dette. Comment est-ce que je pourrais encore revenir à ces choses-là? Paul dit, c'est tout à fait ridicule, c'est insensé. On ne peut pas revenir là d'où on était. On ne veut pas non plus. On ne veut pas se rendre esclave de ce à quoi on a été libéré à un si grand prix. Donc, première attitude qu'on pourrait avoir en voyant comment est notre siècle présent, ce serait de se dire, OK, c'est la seule réalité, c'est la seule façon de vivre, donc on s'y conforme. Et voilà de quoi ça pourrait avoir l'air. Ou la deuxième réaction, ce serait d'y vivre sans s'y conformer. Et c'est là la bonne réaction que Paul nous exhorte à avoir dans le texte de Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Rappelez-vous Jésus, dans sa prière dite sacerdotale, dans Jean 17, 15. Qu'est-ce qu'il demandait au Père? Il disait, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, Jésus était bien conscient qu'on vivrait dans un monde comme on vit aujourd'hui, comme Paul vivait à son époque aussi. Mais je ne te prie pas de les enlever de là, je te prie de les préserver du mal, de les empêcher finalement de se conformer à ce que leur monde va leur proposer. Donc, il est possible de vivre dans le monde sans s'y conformer, parce que l'Esprit va nous préserver justement du mal. Jésus ne nous a jamais appelés à se retirer du monde, à fonder une petite commune dans le fond des bois, à ne plus avoir aucun contact avec les gens de l'extérieur. Ce n'est pas ça que Jésus nous a demandé de faire. Jésus nous a appelés à rester au milieu du monde sans s'y conformer. Des textes comme celui de Matthieu 5, 14, hein, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être, ne peut être caché, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On ne sauve pas une personne pour l'isoler en dehors de la société. On veut que la lampe serve à quelque chose, qu'elle éclaire quelqu'un finalement. Et c'est ça, on a cette lampe-là en tant qu'enfant de Dieu. Paul nous appelle aussi, dans un texte plus loin, dans Philippiens 2:15, hein, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est ce à quoi nous sommes appelés, de rester bien au milieu de notre société sans nous y assimiler, comme le petit bateau qui est bien au milieu de l'eau, hein, mais qui reste bien au sec. C'est la même chose que Dieu demande à ses enfants. C'est là aussi ce qu'a fait Noé. Bon, on a parlé tout à l'heure de l'histoire on a vu la petite arche de Noé, là, bien caricaturée, là. Mais Noé, c'est exactement le cas. Regardez ce qui est dit dans Genèse 6, versets 5 et 7, 1. Il dit, « L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça, c'est fort, hein? Toutes, pas juste une partie. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, pas juste certains jours, chaque jour, uniquement vers le mal. Pas des fois vers le mal, des fois vers le bien, uniquement vers le mal. Là, c'est vraiment, là, on dit, wesh, c'est horrible, ça, là. On est pareil aujourd'hui, faites-vous-en pas, on est pareil. Et au verset 7, 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison, car quoi? Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc Noé avait accepté qu'un gouffre immense se creuse entre lui et la société dans laquelle il vivait. Parce que Noé vivait quand même au milieu de cette génération-là. Il a accepté qu'entre lui et ses voisins, hein, il y a littéralement un mur, une séparation nette, que tu pouvais voir la différence. Au premier abord, tu regardais, oups, lui n'est pas comme les autres, il détonne dans l'endroit où il est, même s'il vivait au milieu d'eux. Plus tard, il a accepté de passer même pour un fou lorsqu'il a obéi à Dieu puis il a construit l'arche pour sauver tout le monde animal et les humains, évidemment. Mais il a accepté de payer ce prix-là, d'être différent, de passer pour fou, de faire rire de lui. Résultat, lui seul et sa famille ont été épargnés lorsque le châtiment est arrivé. En regardant quelques commentaires sur notre texte de Romains 12, un texte que j'ai trouvé bien pertinent, c'est celui de Bermier, le commentaire. Regardez ce qu'il disait. Il dit, « Cette entière consécration de nos âmes et de nos corps, bon, c'est lui qui les a rachetés, donc on parle du verset 1, un sacrifice vivant, ne peut se faire sans que nous rompions avec les principes, les maximes, les coutumes, le train de vie du siècle présent, généralement contraire à la volonté de Dieu. C'est donc là une partie du sacrifice de nos corps que Paul nous demande d'offrir à Dieu au verset 1. Je vais se le rappeler. Donc, la première façon que je vais pouvoir offrir mon corps à Dieu, c'est en ne suivant pas ce que me propose ce monde qui est la plupart du temps contraire à ce que Dieu demande de ses enfants. Bon, il va de soi que certaines avancées technologiques, certaines modes, parfois ne vont pas à l'encontre de ces principes-là. Je ne pense pas que la mode qui est passée à un moment donné, des crocs, là, des genres de sandales en caoutchouc, là, je ne pense pas qu'on peut dire ça va à l'encontre des principes bibliques. Par contre, il y a bien d'autres domaines. Si la mode, exemple, je me rappelle, dans l'ancien temps, on parlait un décolleté jusqu'au nombril, là, il y avait une expression, et c'était une extrapolation. Bien, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. Ils en font de ça. C'est horrible. On dit, bien là, si ça l'expose la nudité, si c'est provocateur, si c'est sexuellement explicite, oui, on ne doit pas suivre cette mode-là, certainement. Hein? Et la même chose dans certaines mêmes avancées technologiques, on va dire, non, moi, je ne veux pas aller vers là. Ça peut être correct. Par contre, dans les derniers mois, on s'est rendu compte que la technologie pouvait être bien pratique aussi. Hein? Quand on a été complètement confiné, de pouvoir avoir l'Internet et tout ça. D'ailleurs, ils m'ont vraiment surpris de comment ça a tenu le coup quand même. Mais la technologie est bien intéressante quand elle fonctionne. Parce que quand ça ne marche pas, personnellement, là, j'en peux plus. Mais on voit que c'est pas toujours mal. Il ne faut pas mettre toute la technologie et tout ça de côté. Mais faisons attention de ne pas suivre le train de ce monde en suivant ce que notre société propose. Mais j'aimerais ça qu'on regarde maintenant quelques domaines. Parce qu'il y a des domaines plus subtils, surtout quand on parle des valeurs. Les valeurs que notre monde nous propose et qui souvent sont clairement contraires à ce que la parole nous dit, et ça se fait beaucoup plus subtilement. C'est tranquillement, notre siècle nous amène vers là, puis les beaux argumentations, puis l'humanisme, puis l'environnement, puis le bien de la société, nous amène vers des valeurs. Puis quand on ne se met pas sur nos gardes, on peut facilement se laisser entraîner. Des mensonges, des fausses valeurs que nous vend notre société, j'aimerais qu'on en regarde quelques-unes. Premièrement, le train de vie. Regardez les gens autour de vous. Puis peut-être même dans votre propre famille. Le genre de train de vie que vous menez. Quand j'étais à mon travail, il y a quelques années, je dirais peut-être 15, 16, 17 ans, j'ai fait du covoiturage avec un voisin. Et lui, il faisait du covoiturage avec son épouse. Les deux travaillaient. Et bon, je voyageais de temps en temps avec eux. Et une fois en revenant du travail, je les écoutais un peu discuter de leur emploi du temps de la soirée. Sincèrement, j'ai été étourdi. Ça se peut pas. Il faut dire que lui était particulièrement intense, là. Mais là, il me racontait ça. Bon, là, en arrivant, il se dépêchait à manger une bouchée. OK? Pas trop, parce qu'après ça, il voulait aller faire un entraînement de 45 minutes au gymnase. Après ça, il avait pris rendez-vous avec des amis pour aller faire quelques parties de squash. Et en fin de soirée, il disait, hey, le nouveau film vient de sortir, on va aller voir le film au cinéma. Lui, en passant, il étudiait au cégep, donc il avait des devoirs à terminer. En revenant à la maison, évidemment, il avait plein de tâches, le repassage à faire, le ci, le... Ça, c'est un soir de semaine, là. On ne parle pas d'une fin de semaine. Un soir de semaine. Les gens s'étourdissent, frères et sœurs. Les gens s'étourdissent pour ne pas avoir le temps de s'arrêter puis de réaliser que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Après quoi qu'ils sont en train de courir? Comme l'expression que je disais à quelqu'un cette semaine, ils se courent après la queue comme un chien, là. C'est ça que les gens font, puis plus ça va, plus qu'ils courent vite, là. Le train de vie de ce monde, comment vous voulez qu'il y ait de la place pour le Seigneur là-dedans? Il n'y a aucune place pour le Seigneur dans une soirée comme ça, là. Il n'y a aucune place pour les enfants de Dieu. Quand nous venons au Seigneur, ce que Dieu nous demande, c'est surtout pas qu'on le mette par-dessus ce tas-là. Dire, OK, bon, mon horaire est bien occupé, mais je vais me mettre par-dessus ça, Seigneur. C'est pas ça que Dieu nous demande. Ce que Dieu veut, c'est qu'on tasse tout ça, qu'on le mette lui. Et après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir remettre. Et, bon, je sais qu'on a un jeune avec nous autres, fait que sûrement que notre ami Alexandre va bien comprendre. C'est pas quelqu'un qui a oublié son sac, là. C'est une illustration que je voulais. Les fameux sacs d'école, ça ressemble peut-être au sac d'école à Joël, avec l'ordinateur, les écouteurs et tout. Je me disais, bon, ça peut ressembler peut-être à notre vie, ça, avant de se convertir. Et le jour où on se convertit, le Seigneur dit, je veux passer en premier dans ta vie. Donc, là, on serait tenté de dire, OK, on va essayer de... Non, là, je vais la briser si j'essaie de la rentrer dans... Mon sac est déjà plein, là. Donc, qu'est-ce que je devrais faire, Alexandre, si je veux mettre ma belle Bible dans mon sac? C'est quoi que tu me suggérais? OK. Moi, ce que je suggérais, c'est qu'on vide tout. on met la Bible en premier, et après ça, on rentre tout ce qu'on est capable de rentrer. Peut-être je vais être obligé de dire, OK, j'aime bien ça écouter ma musique sur les écouteurs pendant la pause, mais je vais l'écouter live plutôt, ou je vais m'en passer. Il y a des choix peut-être qu'on va devoir faire. Et je trouve que c'est une belle illustration. Ce que le Seigneur nous demande, c'est ça. Qu'on le fasse passer, lui, en premier. En premier. On lui, au centre de notre vie. Et après ça, peut-être que oui, je vais avoir le temps d'aller au gym, peut-être 3 fois par semaine. Peut-être que oui, je vais pouvoir continuer à faire des parties de squash avec des amis. Peut-être que je vais, quand il y a un film intéressant, je vais pouvoir y aller. Mais le premier gros morceau que je mets dans mon horaire, c'est le Seigneur. C'est mon temps avec lui, mon temps personnel avec lui. C'est le temps que je vais prendre le dimanche matin pour me rencontrer avec des frères et sœurs, pour louer le Seigneur. Ça, je vais le mettre en priorité. Je vais aller au groupe maison. C'est pour ceux qui sont capables. Je mets ça en priorité dans mon horaire. Et après ça, je vais pouvoir regarder là où j'ai du temps, là où ce que je peux ajouter. Donc, ça ne veut pas dire qu'on enlève tout, mais ça veut dire qu'on commence par ces choses-là, ces gros morceaux-là, qui sont importants pour ma croissance spirituelle. On va voir dans 2 semaines ou 3 semaines, dans la suite du verset, ça va faire toute une différence dans la façon de percevoir ou d'organiser ça. Donc, premier mensonge, le train de vie. C'est pas ça, la vie en 2020. La vie en 2020 peut être bien différente de ce que les gens vivent. Okay? Évidemment, oui, on va détonner par rapport aux autres. Maintenant, la vraie vérité, ce que j'ai appelé le deuxième point, hein? Qu'est-ce que notre société nous vend comme mensonge? Bien, la deuxième aberration, je dirais, c'est que la vérité est différente pour chacun. Hein, si on entend ça, si c'est bon pour toi, bien là, c'est ta vérité à toi. Mais voyons donc. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Voyons, personne ne croit ça, là. Voyons, ça ne se peut pas, là. Tu ne peux pas avoir 25 000 vérités pour le même sujet, là. La vérité, c'est un absolu. Il y a une seule vérité. Hein? Puis la vérité ne change pas dans le temps non plus. Elle ne change pas selon les individus. Elle ne change pas dans le temps non plus. La vérité que Paul nous parle dans les années 70, c'est la même vérité en 2020 aujourd'hui. La vérité, c'est la vérité, puis ça va toujours rester la vérité. Je ne comprends pas que notre société peut véhiculer des valeurs comme ça, puis ils ne peuvent pas. C'est impossible que quelqu'un croie à ça, là. Je ne peux pas dire que l'herbe est rose, ou l'herbe est bleue, ou l'herbe est, des fois, oui, est jaune chez nous, là, mais l'herbe est verte, normalement, là. Okay? Mais il y a une seule vérité, c'est l'herbe est verte. Il y a des fois avec des taches jaunes. Okay? Mais il n'y a pas 50 000 vérités, il y en a une. C'est une aberration de notre société de nous faire croire des choses comme ça. Donc, la vérité, ce n'est ni Bouddha, ni Mahomet, ni le Dalai Lama qui nous la présente. C'est Jésus. Et Jésus nous a dit clairement, si on croit en Jésus, je suis la vérité, pas une des vérités, la seule vérité, c'est Jésus. Tout ce qui est à dehors de ça, c'est du mensonge, frères et sœurs. La vérité, ce n'est pas que l'enfer n'existe pas. Ce n'est pas qu'on va passer un temps au purgatoire avant d'aller au ciel. Non, l'enfer existe, puis Christ a payé un prix immense pour qu'on puisse y avoir accès, pour qu'on puisse entrer au ciel. Ça, c'était l'évangile que Paul nous présentait dans les 11 premiers chapitres. La vérité non plus, ce n'est pas que je pense être assez bon pour entrer au ciel. Non, c'est que je dois me repentir justement parce que je suis mauvais. Et Paul nous l'a présenté assez évidemment. Hein, on le voyait comment on était mauvais. Ce n'est pas que je suis assez bon pour aller au ciel. Non, j'ai besoin du sauveur, du sacrifice de Jésus à la croix. Ça, c'est la vérité. On doit avouer aussi que tout ce qui passe à côté de ça, frères et sœurs, tout ce qui passe à côté de ça, ça a un seul mot. La vérité, c'est que c'est un mensonge. C'est pour jouer un petit peu avec le... Donc, c'est ça la vérité. Tout ce qui est en dehors de ce que la Bible nous enseigne, c'est un mensonge. Osons le dire, osons appeler ça comme c'est vraiment. Notre société nous vend ces mensonges-là. Troisième aberration, c'est la base de ce qui est bien et de ce qui est mal. Notre société aujourd'hui essaie de se reconstruire en enlevant la base des Écritures, la base de Dieu lui-même. Si on enlève Dieu de l'équation, qu'est-ce qui nous reste, frères et sœurs? Sur quoi on va pouvoir se fonder pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal? Hein? Ce qui est un crime, de ce qui n'est pas un crime. Quoi tu disais, Yvon-Pierre? Sur quoi? C'est des opinions, effectivement. Souvent, ça va être justement, comme on le disait, le bien collectif, ça va être ça la référence, mais c'est tellement vague, ou l'environnement, les scientifiques, qu'est-ce qui nous reste? C'est comme ça qu'on en arrive à des aberrations. Il y en a une que je vais passer, mais la légalisation de la marijuana, des décisions ou des lois comme de permettre l'avortement, d'aider les personnes malades, quand ce n'est pas juste trop âgées, à mettre fin à leur jour, le suicide assisté. Hein? C'est le genre de déviation que notre société prend quand elle enlève Dieu d'équation. Quand Dieu n'existe plus, voilà le genre de loi qui va être passée, j'en ai passé d'autres. Il y en a sûrement d'autres qui sont venus à votre idée. Mais c'est ça qui arrive. Ça n'a pas de bon sens. Notre société tente de se reconstruire sans remettre la perspective de Dieu à sa place. Ça, c'est la pire erreur que notre société pouvait commettre. C'est exactement ce que l'Empire romain a tenté de faire un petit peu avant son déclin et même son extinction. Excusez-moi. Puis ça, c'est seulement quelques années après que Paul a écrit son épître. Seulement quelques années après, la société qu'il nous décrivait et où nous sommes aujourd'hui, est disparu de la carte, a disparu complètement. Tu ne peux pas enlever Dieu de l'équation. Quand tu prends des décisions, des lois, pourquoi? Parce que les autorités sont là. Et il y a toujours Dieu qui est au-dessus d'eux autres. Si les autorités prennent une ligne à côté, Dieu est toujours là. Et Dieu peut enlever ces autorités-là d'au-dessus de nous. Dieu a cette puissance-là, on a un grand Dieu. Un quatrième mensonge, c'est la place qu'on fait à l'argent, au plaisir dans notre vie. Et souvent, j'ai entendu des gens dire, même je pense dans les écoles, qui disent aux jeunes, « Trouve-toi un métier que tu aimes, fais quelque chose qui va te faire du plaisir, tu vas avoir du plaisir à aller travailler, ça va être joyeux, C'est un mensonge, frère et sœur. Oui, tu peux trouver un métier qui va t'aller mieux à toi, qui va correspondre à tes forces, tes faiblesses, OK? Je suis d'accord. Mais tous les métiers ont leur côté positif et leur côté négatif. Si ce n'est pas le cas, s'il y a juste des côtés positifs, là, on appelle ça un loisir. Puis ça, ils vont te charger pour que tu puisses le faire, parce qu'il y a juste des choses agréables dans ce domaine-là. Un métier, parce que justement, il y a des choses plus agréables, des choses moins agréables, dans tous les métiers, c'est pour ça qu'on te paie pour le faire. Donc non, la recherche juste du plaisir, ça n'existe pas et notre jeunesse va être vraiment déçue. Hein? Puis pourquoi aujourd'hui, je pense que les jeunes sont tellement, ils ne savent plus vers quoi se diriger. Il y a ça un domaine, OK, ouais, je n'avais pas pensé, ça j'aime moins ça dans ça, fait que je vais en trouver un autre que je vais tout aimer. Là, ils s'en vont dans un autre domaine et ah non, non ça je ne veux pas faire ça non plus. Et les jeunes ne savent plus où donner de la tête. Ils s'attendent, c'est ce qu'on nous a dit, que ça va être juste une partie de plaisir, le travail. Non. Il faut que tu bûches. Des fois, il y a des choses moins agréables dans tous les métiers. Et un dernier domaine que j'aimerais qu'on regarde, c'est la fameuse retraite dorée. Les gens épargnent des grosses parties de leur salaire toute leur vie pour se préparer un train de vie extraordinaire à leur retraite. Et qu'est-ce qui arrive plus souvent qu'autrement quand ils se rendent à leur retraite? Parce que bien souvent, ils ne se rendent même pas à la retraite pour en profiter. Après un an, deux ans, des fois trois ans, là, ils sont allés d'être à la maison, rien faire. Là. Ils retournent travailler. Ils retrouvent une job, puis ils retournent au travail. Ils sont vendus toute leur vie. 30, 35, 40 ans, ils ont payé pour leur retraite. Là, ils arrivent à leur retraite, waouh! C'est bien plat! Hein? C'est pas ça, là. C'est pas une vie, ça. C'est des mensonges que notre société nous fait croire, hein, pour qu'on travaille d'arrache-pied. Vas-y. Parce qu'il y a une carotte au bout. La carotte n'est jamais là. Elle n'arrive jamais, la fameuse carotte. Hein, c'est rare. Dans notre temps, les plus vieux, vous vous rappelez de ça, hein? Liberté 55. Liberté 55, oui. Il y en a des retraités, ils peuvent, je suis sûr qu'ils pourraient vous en parler. Donc, une autre aberration, mais combien d'autres? Combien d'autres mensonges, frères et sœurs, on a accepté que notre siècle présent nous a vendu, hein, comme la vérité, alors que ce sont des mensonges, ce sont des aberrations. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça la vie. La vie est en Jésus-Christ, pas ailleurs. Cherchons-la pas ailleurs. Ne nous conformons pas au siècle présent. On va voir la suite dans deux ou trois semaines. Évidemment, comment on peut arriver à ne pas se conformer au siècle présent? Hein? Et c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines semaines. Mais chose certaine, ça va avoir rapport avec l'Évangile que Paul vient de nous présenter pendant les 11 premiers chapitres. Ça va avoir rapport avec cette bonne nouvelle-là. Par nos propres forces, on va plutôt ressembler à la femme de Lot. On va s'attacher à notre monde et on ne voudra pas en sortir. Ça, c'est à peu près ce qu'on va être capable de faire par nos propres forces. Mais par la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit, on va pouvoir plus ressembler à Noé, qui lui a accepté de détonner, d'être vraiment à part de sa société, du siècle dans lequel il vivait, hein, et qui a été finalement épargné. Mais ça nous dit que c'est possible. C'est possible de vivre ça quand on va voir plus tard comment ça peut se faire. Mais c'est l'Esprit qui est en nous qui va rendre ça possible à ceux qui lui appartiennent. Donc, on a tous des domaines, puis je pense sans exception, on peut dire, on a tous des domaines dans nos vies où on s'est laissé enfirouapper par le siècle présent, où on a accepté des mensonges, frères et sœurs. On s'est laissé berner par le siècle présent. On en a tous dans notre vie. Moi, j'encouragerais cette semaine à prendre le temps de vous arrêter pour vous demander, y a-t-il des domaines dans ma vie où j'ai accepté des mensonges, hein, des mensonges que le siècle présent m'a raconté, puis je vis aujourd'hui conformément au monde et que je devrais faire du ménage. Demandez à Dieu de vous le montrer. De vous montrer s'il y a des domaines dans votre vie où vous vous êtes conformé au siècle présent et où vous devriez vous repentir puis changer d'attitude. Et je peux vous faire une promesse. Si vous faites ça, la réponse de Dieu va ressembler étrangement à un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, hein, qui sera de notre part un culte raisonnable. Oui, ça va demander de briser avec quelque chose. Faites-le sincèrement, frères et sœurs. Faites-le sincèrement. Demandez à Dieu de mettre en lumière les mensonges. On a le Dieu de vérité. Notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Si tu lui demandes la vérité, tu vas l'avoir, la vérité. Donc, demandons-nous ensemble qu'est-ce qui dans notre vie devrait changer? Et acceptons la réponse du Seigneur. On va prier. Et oui, notre bon Papa du ciel, on veut te remercier de ce que, Seigneur, on a ce roc solide. On sait où trouver la vérité. La seule vérité, la seule vraie vérité est en toi. Seigneur Dieu, on est privilégiés parce que dans ce monde, Seigneur, ils n'ont pas accès à cette à ce roc, Seigneur, que nous avons aujourd'hui par l'Esprit. Donc, certainement, on te demande de te révéler à nos contemporains, de te révéler aux gens, peut-être au gouvernement, à nos voisins, à nos parents, à nos amis, Seigneur Dieu. Révèle-toi à eux, et Seigneur, qu'ils puissent eux aussi trouver cette extraordinaire vérité en toi. Seigneur Dieu, certainement, je veux intercéder pour mes frères, mes sœurs, pour moi-même le premier. Que tu nous montres, Seigneur, cette semaine, les domaines dans lesquels on a accepté de se conformer au siècle présent. Des choses qui, Seigneur, plus souvent qu'autrement, t'attristent. Que tes enfants font des mauvais choix. Et Seigneur, montre-nous où, Seigneur, on s'est laissé prendre. Et donne-nous par l'Esprit, Seigneur, la capacité, la force de pouvoir démasquer ces mensonges, mais de réagir en fonction de ce que tu vas nous montrer aussi, de prendre la bonne décision, la décision de ne pas nous conformer au siècle présent. Et c'est en Jésus qu'on te le demande, par la puissance du Saint-Esprit, en Jésus. Amen. La semaine prochaine, moi je vous invite, soyez là, j'aimerais ça qu'on continue avec les mêmes 7 mots de notre texte, et parce que je trouvais ça important, c'est sûr qu'on va regarder dans les versets qui vont suivre, ça parle beaucoup de l'Église. Donc oui, il y a la vie personnelle, il y a la vie de l'Église aussi. Et j'aimerais ça qu'on se pose la question la semaine prochaine. Est-ce que ce serait possible que notre Église ou que l'Église du 21e siècle, en 2020, à quelque part se soit conformée au siècle présent? Ça peut être dans nos pratiques et tout ça. Donc, j'aimerais ça qu'on se pose la question et qu'on regarde ça ensemble. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui s'est conformée au siècle présent? Parce que oui, c'est un appel personnel. Je pense que c'est un appel aussi à se poser la question ensemble. Donc, la semaine prochaine, ne manquez pas d'être là. Et merci. Je vais inviter l'équipe.